La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 9h40 à Paris, 8h40 en temps universel et au Sénégal où la campagne électorale bat son plein. Depuis dimanche, le pays vit au rythme des meetings. Les 5 candidats à l'élection présidentielle multiplient les déplacements. Alors le président sortant et les 4 opposants ont désormais 20 jours pour convaincre. Président sortant Macky Sall, les 4 opposants Madi Kenyan, Idrissa Seck, Issa Sall et Ousmane Sonko. L'objectif de Macky Sall est de réussir un coup KO, autrement dit, se faire réélire dès le premier tour. Et pour cela, il mise sur son bilan, notamment en termes d'infrastructure. Ses adversaires, eux, sont convaincus qu'il y aura un second tour et qu'ils parviendront à provoquer donc une alternance. En tout cas, durant les 20 prochaines minutes, nous ne parlerons ni du jeu des alliances, ni de l'absence de certains partis historiques, mais de vos priorités. Vous qui nous écoutez au Sénégal, dites-nous quel thème attendez-vous, sur quel thème attendez-vous les candidats, quels doivent être les sujets incontournables de la campagne électorale. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission. J'en ai lu quelques-unes, hein, juste avant de rendre l'antenne il y a une dizaine de minutes. J'en lirai d'autres, évidemment, pour alimenter la réflexion et le débat. Pour commencer, nous avons Rama, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Rama.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue. Parmi vos priorités, il y en a une qui vous tient à cœur et vous souhaitez nous interpeller sur le pouvoir d'achat.
Exactement. Moi, je voudrais interpeller en tout cas les 5 candidats à la présidentielle sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Parce que la vie coûte cher au Sénégal. Il faut vraiment, je pense que les 5 candidats devront faire la pédagogie, en tout cas auprès des ménages sénégalais, pour leur convaincre de pouvoir souffler dans les mois qui viennent. Mmh. Il faut vraiment avoir la chance de faire la sous-région pour en fait se rendre compte que la vie coûte très très cher au Sénégal. Les denrées de première nécessité coûtent très cher.
Vous avez vraiment l'impression que vous parliez du poisson, de la viande, le riz, le sucre, la farine, tous ces produits-là ont augmenté ces dernières années ?
Ces produits ont augmenté en fait. Je pense que des efforts sont faits en permanence pour construire des infrastructures. Je pense que ces mêmes efforts devront être en tout cas faits pour que les prix soient abordables sur le marché. Parce que les Sénégalais en souffrent. Je ne parlerai même pas que des denrées de première nécessité et tout ça, mais il faut prendre le loyer. Moi, je ne suis pas en location, mais je sais que les Sénégalais en souffrent. Une loi avait été votée dans le sens de pouvoir stabiliser et de réduire le prix des loyers, mais on s'est rendu compte très vite que cette loi a produit en fait l'effet inverse. Ça a créé une spéculation au niveau des prix des loyers et j'en suis convaincue que les Sénégalais en souffrent en permanence. Donc je pense que les candidats, en tout cas le pouvoir d'achat des Sénégalais, la cherté de la vie au Sénégal devrait être en fait au cœur des priorités de ces 5 candidats à la présidentielle.
La cherté de la vie, c'était déjà un des sujets qui avait dominé la campagne électorale en 2012.
Tout à fait, tout à fait, mais on s'est rendu compte en fait que l'actuel pouvoir, ils n'ont pas pu en tout cas satisfaire la demande des Sénégalais à ce niveau. La vie reste toujours chère au Sénégal et il faut vraiment, par exemple, si je prends l'exemple de l'autoroute à péage, un petit trajet entre Dakar et Diamniadio vous coûte 3000 francs aller-retour. Alors que l'autoroute à péage était censée être construite pour en fait alléger les bouchons au niveau de Dakar. Donc c'est pas à la portée du Sénégalais lambda.
Effectivement. En tout cas, c'est peut-être parce que le pays connaît une croissance importante, 7% ces dernières années, 7-6%, ça dépend des années. Et donc, du coup, la vie devient plus chère puisque le pays attire des investisseurs étrangers. Donc, tout ça fait que peut-être que les produits, effectivement, deviennent plus chers. Rama, merci beaucoup. Et si les candidats vous écoutent, eh bien, qu'ils s'expriment sur cette thématique lors des meetings qu'ils tiendront durant les 2 prochaines semaines. Bonjour Souleymane.
Bonjour Juan.
Vous insistez alors, comme beaucoup d'auditeurs, vous, sur l'indépendance de la justice.
Exactement.
Eh bien, on vous écoute.
Voilà, donc, en fait, moi, mon coup de gueule, c'est plutôt par rapport à l'État. qui instrumentalise la justice. Et en fait, il y a deux camps. Soit vous transhumez et ils mettent sous le coude vos dossiers, soit vous êtes un frondeur et ils utilisent la machine judiciaire contre vous, en fait.
Alors là, vous parlez de la transhumance, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, la transhumance politique, c'est le fait, pour un homme ou une femme politique, de quitter son parti et de rejoindre, pour rejoindre un autre. Et certains l'ont fait, justement, pour rejoindre la coalition du président sortant.
Exactement.
Oui. Et donc, si vous pratiquez la transhumance politique, vous n'aurez jamais de problème avec la justice. En revanche, si vous êtes un frondeur, et j'imagine que vous faites référence à Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, eh bien là, la justice vous poursuit.
La machine judiciaire se met en marche. Exactement. C'est ça. Moi, en fait, ce que je recommande à tous les candidats, et je pense qu'il y a le partisan du pur, Issa Sall et Idriss Asek, qui ont dit que s'ils sont élus, il démissionnerait de la magistrature, parce que le président est le premier magistrat et c'est le chef de tous les magistrats. Donc là, en fait, cette démission donc du président donnera, selon moi, dans un premier temps, un peu plus de liberté à la justice. Et dans un second temps, il faudrait que la justice soit autonome, en fait.
Alors, excusez-moi, je vous contredis, parce que certes, Idriss Asek a dit qu'il démissionnerait du Haut Conseil de la magistrature, mais en même temps, il y a quelques jours, il est allé rendre visite à Khalifa Sall, devant évidemment des journalistes, et que dit Idriss Asek ? Il dit, en cas de victoire, je viendrai ici le prendre. Autrement dit, si je gagne l'élection présidentielle, je promets de libérer Khalifa Sall. Est-ce ça l'indépendance de la justice ?
Bon, moi, ce que je dis, c'est que, en fait, là, il l'a peut-être dit d'un côté symbolique pour qu'il remette, en fait, la machine judiciaire en marche pour essayer de voir si vraiment il est trempé dedans ou pas. Voilà, si sont les allégations donc purement politiques, ben, qu'il soit libéré, en fait.
On va donner la parole à Claude également, qui souhaite nous interpeller sur l'indépendance de la justice. Bonjour Claude.
Oui, bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous partagez l'analyse de Souleymane à l'instant ou pas ?
Effectivement, mais Juan, permettez-moi d'abord de lancer une invite à l'endroit de tous les acteurs politiques sur la nécessité d'une campagne électorale apaisée. Donc, parce que la paix aussi a lien avec la justice. Parce qu'un pays sans justice, on ne peut pas avoir de paix. Et sous le régime de Macky Sall, nous avons vraiment eu beaucoup de regrets quant à l'instrumentalisation de la justice, comme l'a dit mon prédécesseur. Nous sommes vraiment contre une justice sélective. La justice sénégalaise doit être là pour tous les citoyens sénégalais, au même titre, et non une justice partisane. Mes militants, je les mets hors d'état de nuire et tous ceux qui sont contre moi, je fais le maximum pour les abattre.
Oui. Alors ça, c'est Claude, c'est votre interprétation des faits. En même temps, Karim Ouad et Khalifa Sall, que vous n'avez pas cité, mais il s'agit d'eux évidemment, ont commis des délits.
Oui, ils ont commis des délits, mais le constat est là aussi. Il y a beaucoup de gens du camp présidentiel qui ont été pris la main dans le sac, hein, avec des malversations, des détournements de milliards et qui sont toujours dans le gouvernement. On les connaît tous.
Donc vous diriez une justice de poids de mesure. Donc et pour l'instant, en écoutant les quatre opposants, est-ce qu'il y a des arguments qui vous séduisent concernant l'indépendance de la justice ?
Bon, pour l'instant, je pense que les gens ne l'ont pas abordé pleinement, mais aussi après la justice, il y a la séparation des pouvoirs. Parce que là, c'est l'exécutif qui dicte sa loi à la justice.
Et pourtant, vous dites que les candidats ne l'ont pas encore abordé. Et pourtant, quand on lit les commentaires sur la page Facebook de l'émission ou encore sur le compte WhatsApp, c'est un sujet qui revient très souvent dans vos réactions. Donc, il y a une attente véritablement concernant l'indépendance de la justice. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée à Dakar. Vous nous écoutez sur les 92. La diaspora sénégalaise nous nous appelle. On a reçu cette nuit la réaction de Mass, qui est à Houston, au Texas. Il nous dit, je veux vous raconter comment nous, les Sénégalais de Houston, vivons cette élection présidentielle. On va donc le rappeler dans un instant. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Juan.
Sénégalais de la région parisienne, on vous écoute, quelle est votre priorité ?
Alors, je crois que dans cette campagne, ce qui devait être la priorité des priorités plutôt, ça devait être la lutte contre la pauvreté. N'oublions pas que le Sénégal quand même est un pays où l'on compte 47% de pauvres au niveau de la population. Quand on regarde les classements sur le plan international, le Sénégal avait occupé la 162e place sur 188 pays. Ça veut dire quoi? Que vous avez évoqué tout à l'heure la croissance à 6,8%.
Oui, 6-7%, ça dépend...
6-7%, ça dépend des
années, voilà,
des indicateurs et des années. Oui. En moyenne, c'est ça. On va dire
en tout cas,
7%.
Le FMI prévoit 6,7% cette année, en 2019.
Oui, alors, mais le paradoxe aujourd'hui, c'est que la population sénégalaise ne vit pas mieux qu'en 2012. Elle ne vit pas mieux, encore pire, c'est que on ne voit pas les retombées de cette croissance. Au lieu d'avoir des solutions durables, on a vu que le gouvernement a opté à des subventions du prix de l'énergie pour éviter, par exemple, le renchérissement de l'essence ou de l'électricité depuis quelque temps, à coups de milliards. Hein, et c'est pas une situation qui est tenable.
Oui.
On s'attend maintenant
mais
à
cette... Mais en même temps, Abdoulaye, je comprends pas. Vous dites on a une croissance à 6-7%. Simplement, la majorité des Sénégalais ne profitent pas du fruit de cette croissance. Et en même temps, le gouvernement subventionne le prix de l'électricité, le prix de l'essence pour que, justement, peut-être pour soulager le panier de la ménagère, si vous me permettez l'expression. Donc, il y a quand même des actions concrètes qui sont faites pour essayer d'améliorer la vie quotidienne des Sénégalais.
Non, c'est parce que c'est un semblant de confort, en fait, qu'ils cherchent à maintenir. Parce que la conséquence, c'est que, à force de subventionner, du coup, aujourd'hui, l'État sénégalais est confronté non seulement à des problèmes de liquidité, mais n'arrive plus à payer ses fournisseurs. Mmh. Ce qui, à terme, risque de bouleverser l'équilibre économique. Moi, je pense effectivement que les candidats doivent se mettre dans une optique réaliste et réalisable, mais surtout en tenant compte des contraintes que je viens d'énumérer, dire aux Sénégalais comment ils comptent en tout cas faire d'une priorité, en tout cas l'amélioration des conditions de vie et que la croissance, oui, mais pour quoi faire? Il faut que ça se traduise concrètement dans le panier de la ménagère.
Bien.
Et voilà.
Abdoulaye, merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Je rappelle que les Sénégalais de l'étranger pourront voter le 24 février. Il est bientôt 3h du matin à Houston et Mass est branché sur RFI. Bonjour Mass.
Bonjour Juan, comment vous allez? Ça va?
Écoutez, ravi, vous êtes en pleine nuit, vous travaillez ou vous écoutez RFI? Vous avez des insomnies?
Oui Juan, vous savez, il fait 3h du matin ici aux États-Unis.
Ah,
et mais permettez-moi quand même, avant de parler comment l'élection présidentielle se passe ici, pour apporter une réponse par rapport à mes prédécesseurs qui ont parlé de l'indépendance de la justice.
Oui.
Moi je pense que la justice sénégalaise, elle est indépendante. Nous avons une justice équitable pour tout le monde. Et vraiment, c'est dommage quand on nous dit qu'il y a une justice à deux poids, deux mesures. Vous savez, moi, je ne veux pas qu'on soit l'avocat du diable. Khalifa Sall n'a pas nié les faits. Khalifa Sall, il a même dit publiquement qu'il a utilisé les fonds. Donc, c'est dommage si certains nous disent qu'il a été injustement emprisonné.
Oui. Bon, on va pas refaire le procès Khalifa Sall et je le disais en début d'émission, je voudrais pas qu'on parle d'alliance politique, je voudrais pas qu'on parle également de l'absence de certains dans cette campagne électorale. On a déjà eu l'occasion de l'aborder. Ce qui m'intéresse ce matin, ce sont les priorités des Sénégalais. Vous, Mass, en tant que Sénégalais de la diaspora aux États-Unis, dans le Texas, quelle est votre priorité?
Ok, nous, notre priorité, je pense que là, on attend quand même à ce qu'on parle des Sénégalais de la diaspora. Mm-hmm. Plus particulièrement les étudiants, tu vois. Parce que là, on a vu que vraiment le pays est en émergence et il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui comptent quand même retourner au pays pour quand même constituer, pour en faire partir de ce qui vont être les bâtisseurs du Sénégal.
Ouais, d'autant que l'embellie économique, la croissance qui est présente, hein, qui est au rendez-vous, donne envie effectivement à des jeunes de la diaspora sénégalaise de revenir au pays, de s'installer. Et donc vous attendez quoi? Des aides?
Oui, nous, on n'attend pas des aides, mais tout ce qu'on attend, c'est des accompagnements. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, le président de la République, il est en train d'accompagner la jeunesse sénégalaise. Il a mis un programme qu'on appelle le DER, la Direction de l'Entrepreneur Rapide, qui permet quand même d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Voilà. Mmh. Et là aussi, c'est un projet que nous saluons très bien. Et on aimerait que ce projet soit élargi au niveau de la diaspora.
Bien. Il y a beaucoup de Sénégalais à Houston. Vous êtes nombreux?
Oui. Oui, il y a beaucoup de Sénégalais à Houston. Et là, en tant que aussi, je vous rappelle que je suis le président de l'Association des Sénégalais de Houston.
Ah, d'accord.
Donc là aussi, nous sommes en train de préparer l'élection présidentielle à notre niveau. Donc les gens se préparent parce que l'enjeu est important quand même. Au soir du 24 février, les Sénégalais quand même devront quand même choisir celui qui va gérer, quand même diriger le Sénégal.
Oui.
Et là aussi, nous sommes vraiment... nous espérons quand même que les choses vont se passer. Oui, on se mobilise à notre niveau.
Merci Mass. Merci. Je vous interromps. Il y a beaucoup d'auditeurs. Je suis désolé. On a compris l'essentiel. En tout cas, bonne campagne électorale à Houston, au Texas. Et merci infiniment de nous écouter en pleine nuit aux États-Unis. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les directeurs de RFI, de Zéganchor, notamment à l'inspection de l'éducation et de la formation.
Voilà qui est dit, vous saluez vos camarades. Mass, qui nous appelait de Houston aux États-Unis, disait il faut aider les jeunes de la diaspora à revenir au pays. Vous, votre priorité, ce sont les jeunes qui sont déjà sur place au Sénégal.
Moi, je pense qu'il faut aider les jeunes qui sont au Sénégal à rester au Sénégal. Ceux qui sont partis, ils ont fait un choix, il faut qu'ils l'assument. Je disais que il faut que l'État accompagne davantage les jeunes qui sont restés au Sénégal à pouvoir créer leurs propres emplois, un peu les former. Moi, je mets l'accent sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a tout à faire au Sénégal. Il y a de grandes opportunités. Il y a beaucoup de perspectives qui se dégagent pour le Sénégal. On a la jeunesse, on a les bras. Il faut, à mon avis, réformer le système éducatif sénégalais pour que l'élève qui est au collège, qui, à partir de la troisième, à partir du BFM, qu'on puisse savoir que tel élève a une telle disposition, soit scientifique ou bien en lettres, et qu'en en rapport avec ça, on l'oriente en sciences ou bien en lettres au lycée. Oui. Mais qu'en même temps, pendant les trois années du lycée, que l'élève puisse prendre ses cours académiques et en même temps apprendre une formation professionnelle qui lui permettra de pouvoir faire quelque chose à partir du bac ou bien à la limite de pouvoir suivre une branche qui va déboucher sur un emploi, que lui-même puisse créer son propre emploi ou bien sa propre entreprise.
La lutte contre le chômage des jeunes était un des engagements de Macky Sall. En 2012, il promettait la création de 200 000 nouveaux emplois en 5 ans. Est-ce que vous avez l'impression que cette promesse s'est concrétisée?
Oui, elle s'est concrétisée. Moi, je suis issu des zones rurales, Juan. J'ai des amis qui ont bénéficié de financement, j'ai des amis qui ont bénéficié de formation professionnelle. Au moment où je vous parle, moi-même, j'ai aidé des jeunes à monter des entreprises dans le maraîchage qui travaillent aujourd'hui, qui arrivent à écouler leurs produits. Donc, le président Macky Sall a beaucoup fait pour la jeunesse sénégalaise. Mais ce n'est jamais suffisant parce que chaque année, il y a une vague de jeunes qui atterrit dans le marché de l'emploi.
Oui.
Et si cette vague n'est pas formée, ça crée forcément des poches de chômage.
Évidemment.
Et je pense qu'aujourd'hui...
J'ai même lu en préparant l'émission que chaque année, ce sont 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sénégalais. On aura l'occasion évidemment de revenir sur cette campagne électorale dans les prochains jours, campagne que vous suivez au quotidien sur l'antenne de RFI, notamment grâce à Guillaume Thibault, correspondant permanent de RFI, qui sillonne le pays. Il réalise depuis deux jours un grand tour du Sénégal, de Tambacounda à Dakar, en passant évidemment par Saint-Louis, Touba, Kaolack. Et ces reportages sont à suivre quotidiennement sur notre antenne. Et il est accompagné d'un photographe, Sylvain Charkaoui, des photos que vous pouvez regarder sur les différents environnements numériques de RFI. Demain, on parlera de la Centrafrique et de la paix. Un accord de paix sera conclu, signé dans la journée.